Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement. Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
On la rejoint dans son somptueux bureau de Rosemont, Maître Sophie Mongeon.
Rosemont, hein?
Ah ouais, bien installé à part de ça, coin de rue, ouais, c'est beau, non?
Mais
je dirais que les clients sont bien accueillis.
Ouais, je pense que c'est une petite poule de luxe, moi. Non?
Je m'avoue, c'est vrai, je le cacherai pas. Déjà, en décrivant mes chandails préférés de la Ligue, je pense que c'est un petit peu dévoilé, que j'aime beaucoup un peu le fashion, puis que oui, j'étais une petite poule de luxe. Alors, je m'assume pleinement ce matin. Pas donc à le dire. Bon.
Alors, Maître Mongeon, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission, parce que t'avais une chronique préparée ce matin, mais t'as écouté les propos de Martin Leclerc, qui est revenu sur le reportage de TSN qui a dévoilé les affidavits de 12 anciens joueurs déposés devant la Cour supérieure de l'Ontario. Pour les auditeurs qui ont manqué ça ce matin à 7h05, on parle d'initiation de gestes dégradants dans le hockey junior canadien. Les cas en Cour supérieure sont de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, mais ce qu'on a appris là, avec les témoignages qu'on a reçus de nombreux auditeurs, c'est qu'il ne faudrait pas surprendre que des cas provenant de la Ligue du Québec s'ajoutent à la liste. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre des procédures actuelles, Maître Mongeon?
Donc, les recours collectifs, là, c'est une façon de donner une voix à plusieurs personnes en même temps. Parce qu'on sait que les recours individuels, c'est plus compliqué. C'est plus difficile à en faire la preuve. Puis il y a des frais aussi associés à tout ça, les frais d'avocat, les frais d'inscription, etc. Donc, c'est une façon pour les gens de se mettre ensemble et de faire une force commune pour obtenir justice. T'sais, on a déjà parlé de ce recours-là parce que ça date quand même de juin 2020. Là, ce qu'on a actuellement, c'est que quand on fait une demande de recours collectif, il faut qu'il y ait une comparution qui est faite par les gens qui représentent, par exemple, la Ligue ou la personne qui est poursuivie. Et après ça, il doit avoir des genres de réponses. Et la beauté des actions collectives, c'est que les procédures sont publiques. Donc, toutes les personnes peuvent suivre qu'est-ce qui se passe. Tandis qu'un recours individuel, c'est difficile d'avoir accès aux requêtes détaillées. Là.
Mais moi, j'ai comme peur du recours collectif quand il est question de gestes criminels comme ça. Je m'explique. Tu sais, moi, j'ai déjà reçu un 20$ à cause qu'il y a eu un cartel d'un sac à pain, là, les pains qu'on te vendait. Là.
Oui.
Fait que t'avais pas besoin de prouver, facture rien, tu t'inscrivais et t'avais 20$ chez l'Aubla. J'ai déjà eu un 20$ parce que je m'étais inscrit parce qu'en telle année et telle année, il y avait eu arrangement des prix pour les puces informatiques.
Oui.
Le matériel informatique. Mais ça,
c'est
on parle
personnel,
de.
Personnel, ça.
On parle de commercial. Oui. On parle de. Bon, t'as-tu été floué, oui ou non? On pose pas de questions, on te donne 20$. Là, c'est des gestes criminels. J'ai peur qu'on banalise quand on envoie tout le monde en même temps et puis qu'on trouve un arrangement qui va être financier. Au bout de tout ça, il n'y a personne qui se ramasse en prison, là. Mm-hmm. Après un recours collectif, là.
Non, mais c'est ça. Le recours collectif, ça, c'est une action civile. Mais rien n'empêche quand même une personne de faire un recours devant les tribunaux civils individuellement ou des plaintes aux criminels aussi. Là. Fait que s'il y a 2-3 personnes là, à travers le recours collectif qu'on voit qui ont fait des actions qu'on peut juger criminelles, ils peuvent être poursuivis quand même, là.
Mais si t'es agressé sexuellement, puis que tu dénonces ton agresseur qui se retrouve devant la justice et est reconnu coupable à la cour criminelle. Mais qui t'a marqué après au point de plus être capable de travailler ou plus être la même personne. Tu peux-tu le poursuivre au civil après?
Oui, on appelle ça du stress post-traumatique.
Okay.
Donc, effectivement, tu peux le poursuivre au civil s'il est solvable. C'est ça le problème là, quand tu poursuis une personne, un individu. C'est bien beau avoir un jugement, mais un jugement où la personne n'a rien, ça donne rien. C'est pour ça qu'on a l'IVAC là, ici au Québec, puis je vais vous en parler.
Mais en même temps, si c'est arrivé dans un club, je te dis, c'est pas moi, comme dans le temps, c'était les Broncos de Swift Current ou je sais pas trop, avec Sheldon Kennedy, est-ce que le gars ou le joueur pourrait poursuivre le club.
Oui.
C'est le club qui a
la loi du silence.
Permis. Pas de permettre ça, mais qui a rien fait, qui a pas agi.
Mais on comprend, là? Oui, mais on fait l'analogie, mettons, avec les prêtres, là, les couvents, etc.
Ouais,
donc,
ouais.
Tu sais, s'il y avait un prêtre en particulier qui avait fait des attouchements, si la communauté au complet le savait, puis il n'y a rien fait, qui qu'on poursuivait? On poursuivait la communauté, parce que la communauté est solvable.
C'est ça.
Le prêtre comme tel ou le membre du clergé, lui, il ne l'est pas.
Donc, c'est important dans les gens que tu poursuis, là, dans la liste, là, c'est les défendeurs, ça?
Oui, les défendeurs.
Les défendeurs, c'est important d'inclure les organisations solvables.
Absolument.
Et ça, c'est les avocats qui vont dire de le faire, qui vont s'organiser pour te...
Parce que, tu sais, je prends un exemple, mettons Graham James, là, qui a abusé des joueurs sexuellement, Théorine Fleury, puis Sheldon Kennedy, et tout ça. Mais si Graham James, il n'y a pas une scène, puis...
Mais moi, ce que je ferais, c'est que je poursuivrais lui... Puis j'appellerai aussi son employeur. Puis c'est.
Mais son employeur, il est plus à l'emploi de cette
club. Ça fait des
années de ça, là.
Il était sous cette gouverne-là à ce moment-là.
Ouais, mettons que le club a changé de propriétaire.
Mais c'est
ça. Reste, mettons comme le Canadien de Montréal. Ça reste le Canadien de Montréal, mais là, c'est le règne de Jeff Molson. Ça a été.
L'entité. L'entité reste là, dans le fond. Quand une entreprise est reprise et achetée, tu apportes avec toi, quand tu achètes une entreprise, tu achètes les recours, le passé, tout le passé.
C'est comme Sandusky et Paterno avec Penn State, tu te souviens, au début des années 2000, quand ça avait éclaté
Exact.
C'est ça, l'université est encore là.
Donc, moi, je pense que le recours collectif, c'est une très belle façon pour les joueurs qui ont été abusés de se mettre ensemble et avoir une voix commune. Là.
Mais là, si je suis un joueur du Québec, pour l'instant, il n'y a aucun cas québécois là-dedans. Est-ce qu'on est rendu trop loin pour ajouter des membres au recours collectif?
Mais tu n'ajoutes pas des membres. Là. Dans le fond, le recours collectif a deux phases. La première phase, c'est la requête de l'autorisation. Ça, au départ, là, en tout cas au Québec, là, je ne peux pas parler pour l'Ontario, mais au Québec, là, on a 50% des recours collectifs parce qu'on est un terrain fertile. Ici, au Québec, la seule chose que tu as à démontrer pour avoir un recours collectif, c'est que ta cause est défendable.
Okay.
À partir de là, tu as 4 critères. Donc, le recours, il faut qu'il y ait des membres qui ont des questions de droit et faits identiques. Et c'est pour ça que les courageuses ont été déboutées en Cour suprême, parce qu'ils considéraient, malgré qu'ils ont été victimes, qu'ils disent, de la même personne, chaque cas est un cas d'espèce dans des endroits différents.
Là, on parle du procès de Gilbert Rozon, c'est ça?
C'est ça. C'est pour ça que ça a été débouté. Alors, peut-être que la défense, à ce moment-ci, de la Ligue, va être effectivement que chaque cas est un cas d'espèce dans des équipes différentes, etc. Puis c'est ça qu'il disait, Martin. Je pense qu'ils vont tout faire pour faire rejeter le recours collectif au stade de l'autorisation pour démontrer que c'est des litiges qui doivent être individuels. Là, on comprend que les personnes n'ont pas les moyens de faire des recours individuels contre la Ligue.
Donc, c'est une façon de se défendre. À ce moment-là, c'est un beau, en anglais, getaway pour les organisations.
Ben oui, c'est de l'avocasserie.
Une porte de sortie, vous devriez dire en français.
Ouais. Donc, le premier point, c'est est-ce que les membres ont le même recours, en tout cas les mêmes faits. Et après ça aussi, que la requête, c'est clair, là, que les faits qui sont allégués nous donnent les conclusions recherchées, puis que la composition du groupe est difficile à faire. La composition du groupe, pardon, fait en sorte qu'il faut que ce soit un recours collectif plutôt qu'individuel. Et surtout, le statut de représentant, donc la personne qui est le représentant, comme ici Daniel Carcillo, lui, dans le fond, il faut démontrer qu'il a vraiment le dossier parfait, qui est digne d'être le représentant de tous les autres membres.
Mais là, les directeurs des poursuites criminelles et pénales qui entendent ces gestes-là être dénoncés au civil, là, y a-t-il quelqu'un qui va allumer qu'il faut ouvrir une enquête?
Mais ce qu'il faudrait faire,
c'est...
Disons que M. Carcillo, ce qu'il pourrait faire, c'est faire une requête, d'aller se présenter à la police puis faire une déposition pour une action.
Lui ou d'autres joueurs.
Là, on parle de Doug Smith ce matin, il y a quelques joueurs qui ont été mentionnés.
Oui, il pourrait le faire individuellement.
Là.
En attendant, ce qu'ils peuvent faire, c'est aussi faire une réclamation à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, c'est une loi qui est prévue pour aider les gens qui ont des actes criminels.
Mais s'il n'y a pas eu de condamnation, est-ce
c'est pas grave?
Non, okay.
Non, c'est pour ça qu'on en entend parler beaucoup récemment. On pense à l'exemple justement que la loi sur l'IVAC va être modifiée, là, parce que avant, pour bénéficier de cette loi-là, il fallait que tu sois un résident québécois et aussi que l'acte est arrivé au Québec. Donc, voyez-vous, pour des actes qui auraient été commis ailleurs au Canada, ça serait pas couvert. Mais là, la loi est en train de changer parce qu'on se rappelle de l'histoire d'une jeune Québécoise qui est allée en Californie, qui s'était faite assassiner par son conjoint. À ce moment-là, dans le fond, la famille disait ça n'a pas de sens, elle, c'est une Québécoise. Mais parce que l'acte est arrivé à l'extérieur du Québec, tu ne pouvais pas avoir recours à cette loi. Et là, elle est en train de se faire modifier pour tenir compte là, de ce genre de situation-là. Fait qu'en attendant, moi, je dirais, si ça vous empêche de travailler ou vous avez besoin de traitement psychologique, faites une réclamation aux victimes d'actes criminels. Tu n'as pas besoin d'avoir une condamnation criminelle pour ça.
Mais est-ce que tu as le fardeau de la preuve?
Même pas. Non. C'est une loi administrative.
Okay.
Donc, il suffit de démontrer.
Tu demandes ton dossier, puis il y a un jugement qui va être fait.
Même pas, c'est une réclamation au même titre que la loi sur l'accident, loi sur l'assurance automobile ou la CNSST.
Donc, ça ouvre pas la porte à des abus, ça?
Ben toujours, mais tu sais, je veux dire, à certains moments donnés, quand tu réclames une loi à l'IVAC, il faut que tu ailles quand même voir un médecin, il faut que tu ailles voir un psychologue, okay. Tu prends de la médication.
Il y a une démarche qui vient avec.
Oui, c'est pas simple ici. On n'est pas aux États-Unis. Là. Toutes les lois sont très, très bien contrôlées pour ça. Il n'y a pas d'abus ici.
Okay.
Il n'y a pas de dommages moraux de millions là, qui se passent. On n'a pas ça. Là.
OK, ben tant mieux. Là. Tant mieux que ça existe aussi pour aider les victimes d'actes criminels. Là. Et donc, ça pourrait prendre combien de temps? Parce que ça peut être long, les recours collectifs. Là.
Ben actuellement, je suis de très près deux recours collectifs. Un contre la CNSST, que je pourrais dévoiler après les fêtes uniquement.
Okay.
Puis un autre via Retraite Québec, que aussi je vais dévoiler après les fêtes. Je pourrais vous donner des détails à ce sujet-là. Mais
ça se peut-tu que dans 20 ans, là, les joueurs reçoivent le jugement, puis tant de monde d'argent, puis plusieurs là-dedans soient morts?
Moi, j'estime 2 à 3 ans. Là.
2 à 3 ans?
Oui, 2 à 3 ans.
Parce que des fois,
là,
c'est long. Là.
Oui, oui. C'est long, okay. Mais le recours collectif là, sur le statut de travailleur, je pense que c'est ça. Là, il y avait une négociation en cours, puis on parlait peut-être de 2-3 ans de mémoire. Là.
Quand ça serait en cours, c'est plus rapide aussi.
Oui, oui, mais tu sais, on a tout le temps l'impression que justice n'est pas faite.
On va faire traîner ça quand même jusqu'à temps.
Ben, c'est sûr!
Ça va se régler peut-être en cours, mais on va faire traîner ça jusqu'à la dernière minute quand même. Là.
Mais c'est à leur avantage à ce statut de faire un règlement en cours, parce que sinon, effectivement, là, il va y avoir des informations. Et c'est public, je me répète. Au Québec, là, si vous êtes intéressé par les actions collectives, puis vous voulez aller pendant le temps des fêtes, puis vous n'avez rien à faire, là.
Ouais.
Allez sur le site des actions collectives, un registre des actions collectives sur le web.
Ça veut dire qu'il y a des joueurs, des dirigeants là, juniors, puis qui ont joué, puis là, c'est rendu des adultes et tout ça, là, qui doivent avoir. Qui doivent pas être gros dans le culotte un matin.
Moi, je serais inquiète.
Oui, mais en même temps, le recours collectif va mettre personne en prison. Et puis, il va faire perdre la job à personne.
Oui, mais peut-être que ton nom va sortir.
Et personne n'est nommé pour l'instant.
Oui, mais c'est sûr que ça va sortir. Là.
Est-ce que, oui, dans un recours collectif au civil, on va nommer les individus qui ont commis les gestes?
Oh que oui, à moins qu'il y ait une demande de huis clos, là, mais ça me surprendrait énormément.
Parce qu'on n'est pas en cour criminelle.
Effectivement.
Okay. Et pour l'instant, pourquoi les noms sortent pas? Pour l'instant?
Parce qu'on est au stade de l'action collective, de l'autorisation de l'action collective, okay. Si je comprends bien. À ce stade-ci, tu donnes de l'information, mais le moins possible. Tu veux pas contaminer les témoins. C'est une façon de contrôler l'information. Une fois que le stade de l'autorisation est passé, à ce moment-là, c'est beaucoup plus ouvert et plus public.
Donc, Barnouche, je trouve ça pertinent qu'on ait une avocate à cette émission-là. Ouais. Vraiment, là, plus que jamais. C'est vraiment... Merci beaucoup, Maître Mongeon, d'avoir... De t'être viré de bord en dedans de 2 heures. Là. Parce que 2 heures, c'était pas ça qui était prévu aujourd'hui. Là.
Oui, mais je maîtrise ça. Là.
Elle nous écoute à partir de 6 heures.
Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis une fan finie. Là. C'est sûr que j'écoute l'émission tous les matins.
C'est la troisième saison qu'on se couche moins qu'à cause de toi. Là.
Ah. Et puis, si j'ai encore un petit 2 minutes, il faut que je vous raconte une petite histoire. Là. Je sais que vous aimez ça, les histoires.
Ben, avant fêtes, là, c'est bien les histoires.
Vous savez, là, justement, l'accident d'auto de Grosjean, comment qu'on, ça change vite une vie. Faut que je vous raconte l'histoire. Moi, je représente Sabrina Mongeon. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire?
Sabrina
Mongeon.
Je connais le nom de famille.
C'est pas de famille avec moi, ça. OK? Du tout, du tout. Sauf que c'est une fille qui avait 18 ans, qui, pendant le temps de Noël, le 25 décembre 2017, s'en va à Gatineau, frappe un poteau. OK? Donc, elle sort de son auto elle-même. Elle voit pas le fil électrique parce qu'elle a frappé un poteau électrique.
Elle est
électrisée et par connaissance.
Okay.
OK. Pour. On dit pas électrisée. On dit électrisée.
Parce qu'elle est pas morte, c'est
exact.
Ça? OK. Électrocutée, c'est quand tu meurs.
Exact. Okay. Électrisée, c'est quand tu as une décharge. Elle est tombée sans connaissance pendant 4 heures. Donc, ses membres ont été brûlés et gelés. Okay. Et puis, finalement, elle est amputée des 4 membres.
Oh!
OK. Donc, on parle d'une fille qui avait 18 ans. Fait que, tu sais, pendant le temps des fêtes, là, soyez attentifs. Ça arrive à tout le monde. Ça, c'était le 25 décembre pour elle. Ça l'a changé sa vie, là. Donc, c'est un petit conseil, le jouer à la mer ce matin, là, pendant le temps des fêtes, soyez prudents en automobile.
S'il y a un point positif à ce qu'on vit cette année, c'est qu'on va faire moins de routes aux fêtes.
Puis il n'y aura pas de party de bureau, donc moins de risques d'accident de travail.
C'est vrai, il n'y a même pas des rouges.
C'est vrai, parce que normalement, les parties de bureau, c'est commencé. Là.
Ben oui, commence, dans la grosse saison.
Ben, l'année passée, justement, on avait avant les fêtes, j'avais parlé d'une histoire cocasse, là, insolite, là, d'accident de travail qui est accepté pendant le temps des fêtes. Là.
Ça va être l'année avec le moins de traces de foufoune de ces photocopieuses.
Bon, je fais que tu penses tout de suite à ça, toi, tabarouette.
Maître Mongeon, encore une fois, merci beaucoup. Merci de ta présence à l'émission. Ça conclut la saison automnale pour nous, mais tu restes avec nous l'hiver prochain, tu reviens en janvier.
On se revoit le 6 janvier, hein? C'est cette semaine-là qu'on
recommence.
Joyeuses fêtes, tout le monde, soyez prudents.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.